RDS et Balco présente le petit paquet.
Bienvenue au petit paquet, 1er avril, hey. Poisson d'avril, les gars, c'est pas vrai, hey. On fait pas d'épisode. Bye!
OK, oh là là!
Est-ce que vous êtes taquin? Hey, je suis tellement tanné des poissons d'avril.
Là, Stéphane, Brock Lesnar a signé à la All Elite.
Eh ouais, c'est pas incroyable. Contrat de 3 ans, 42 millions, il va être le prochain champion du monde.
Puis Mathieu s'en va lutter à la AWS.
Non, en fait, c'est moi, j'ai été intronisé au Hall of Fame de la WWE.
Ouais.
En fait.
Et toi, tu
c'est
le mérites.
C'est la grosse nouvelle.
Ben oui, toi, tu le mérites, certain.
Contrairement à bien d'autres mondes qui sont là. Commençons-là, justement, directement. On a appris cette semaine, là, confirmé, les rumeurs étaient là depuis un certain temps, l'introduction de RVD, qui va faire partie de la classe de 2021 au Hall of Fame. Je trouve que c'est un cas embêtant, RVD. J'ai l'impression qu'il est drette sa ligne.
Qu'est-ce qu'il joue contre lui? Il n'a pas été assez important selon toi.
RVD, non? C'est sûr que quand on en. Tu sais, n'importe quel fan de la ECW comme moi et Stéphane vont dire: ah oui, c'est un Hall of Famer, RVD. T'sais, quand tu regardes sa réelle carrière à la WWE, c'est moins ça, par exemple. C'est quand même court. C'est bon, oui, quelques storylines vraiment intéressantes, dont le, un titre de la WWE au fameux One Night Stand contre John Cena. Mais au final, c'est beaucoup d'opportunités manquées dans son cas, des arrestations de possession de drogue qui ont déraillé plusieurs pushes. Stéphane, comment tu te sens par rapport à RVD au Hall of Fame?
Je pense que j'étais un peu sur la même ligne à prime abord, parce que, tu sais, moi, RVD, je suis pas capable de le dissocier de l'ACW. L'ACW, je la regardais comme ado. Là. J'ai grandi avec l'ACW, puis je trippais sur le produit. Mais moi, ça a fait l'effet inverse, en fait. J'avais oublié qu'il avait gagné autant de championnats, parce que c'était dans l'espèce d'époque où il y avait de la chaise musicale. Je pense que, de mémoire, c'est quoi? C'est 6-7 intercontinentales, une coupe par équipe. Il est Triple Crown, il a tout gagné. En simple. Fait que, ça n'a pas été long, mais il a quand même reçu plein d'opportunités, il est impliqué dans des Money in the Bank, il a fait une couple de bons matchs, puis quand même une stretch de 6-7 ans, RVD, avec un semblant d'intérêt au niveau de la WWE. Donc, OK, on s'entend, là, c'est pas une énorme carrière, mais tu sais, dans les QV, tu as tout le temps des gars, pas des super vedettes, mais quand même correct vedette. Puis je pense que RVD, tu sais, quand je faisais le résumé des expatriés de la ECW Originals, c'est pas mal lui qui a eu le plus de succès. Tu sais, on exclut les gars qui ont juste été un peu à l'ECW, genre Jericho, parce qu'on pourrait dire que Jericho est celui qui a eu la meilleure carrière. Mais tu sais, RVD était dans le premier pay-per-view de la ECW, puis je pense dans le dernier aussi. Fait que tu sais, ouais. Il a vraiment fait la run au complet ECW, puis lui était un des gros morceaux de l'invasion après. C'était un des gars, Paul Heyman. Fait que tu sais, on peut vraiment dire qu'il fait partie du core ECW, là, avec Tommy Dreamer, avec Taz. Tu sais, ces gars-là, c'est les gars ECW.
Ouais. Est-ce que tu considères les Dudley Boys dans cette gang-là?
Oui, absolument. Ouais. Même s'ils sont partis un peu plus tôt, les Dudleys ont grandi à l'ECW. Puis je considère qu'RVD a une meilleure carrière que les Dudleys, même si les Dudleys, ça a été plus long, plus longtemps. Mm-hmm. Parce que juste à la I, c'est RVD qui était la plus grosse vedette de la gang. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme un... C'est un gars que tu lui donnes une reconnaissance plus pour le mettre là.
Puis là, je regarde ses accolades à la WWE. Puis t'as raison, c'est pas rien. Bon, un championnat de la WWE, championnat de heavyweight, ici dub, la mauvaise version de la WWE, par contre. Quatre fois champion hardcore, 6 fois champion intercontinental, une fois champion européen. Quel excellent titre de champion européen.
Toujours aimé ce championnat-là, moi.
3 fois champion par équipe, là. Money in the Bank, Grand Slam, Triple Crown. Ouais, au final, c'est peut-être plus que ce qu'on se rappelle, effectivement.
Vous disiez pas la semaine passée que c'est lui qui avait démasqué Kane? Est-ce que tu...
C'était, me semble que c'était un combat contre RVD que Kane a perdu puis qu'il perdait son même. Là, j'y vais vraiment de mémoire. Je pense que c'est après leur run de champion par équipe. Ils ont fait un angle de split. Mais là, je suis peut-être off d'un an sur l'angle de split, là, parce qu'ils ont été champions par équipe ensemble. Mais je suis pas mal sûr que c'est RVD qui l'a démasqué parce que c'était un pas pire babyface dans le temps. Puis c'est ça, quand ils ont fait le reboot ECW, ben tu sais, c'était RVD le gros gars. C'est RVD. Quand il a battu John Cena, là, c'était pas John Cena temps partiel qui revenait une fois de temps en temps. Là. C'était John Cena, tout le monde l'haït parce qu'il gagne tout le temps. Là. C'est John Cena au peak de John Cena.
Oh, ouais, au travers de la foule la plus hostile
Cette carte-là, le deuxième One Night Stand est moins bon que le premier, mais le combat final avec le pop, c'est comme, OK, non, c'est fou raide. Puis c'était quand même RVD qui avait été choisi pour ce moment-là. Ouais. Fait, pendant 2-3 ans, RVD était dans le top 5 des babyface à la WWE. C'est juste qu'il était dans une grosse cuvée avec plein de monde. Puis c'est quand des gars comme Orton puis tout ça vont prendre leur retraite, c'est eux autres qu'on va se souvenir de cette époque-là, c'est pas RVD. Mais écoute, honnêtement, si tu me faisais la liste au complet de tous les Hall of Famers, je le squeezerais quelque part dans le milieu. Là. Il me dérange pas. C'est un peu comme au baseball quand ça te prend 5-6 tours avant de finalement rentrer par la porte dans l'arrière. Un genre de Tim Raines. Tu sais, Tim Raines, tout le monde Montréal capote dessus. Mais tu parles à du monde de la MLB, puis c'est comme, bah, c'est un bon joueur, c'était cool.
Tu vas te faire crucifier.
Je sais bien, mais tu sais, il va me dire à moi que Tim Raines fait partie du top 25 de l'histoire du baseball. Là. C'est juste, c'est une grosse vedette. Mais...
Moi, selon mes souvenirs, quand j'étais plus jeune, je regardais la lutte de façon un peu plus casual, mais je me souviens que RVD, c'était quand même un des lutteurs qui avait marqué mon imaginaire. Je trouvais que quand il est arrivé dans la WWE, il n'y avait personne d'autre qui luttait avec le style que lui apportait. Puis j'ai quand même l'impression qu'il a beaucoup contribué à l'évolution du travail dans le ring, là, dans le produit auquel on est désormais habitué. J'ai l'impression que probablement que si ça n'avait pas été RVD, dit quelqu'un d'autre aurait eu cette contribution-là. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas sous-estimer son apport en termes de style. Donc, tu sais, un gars qui, en plus, qui ressemblait tellement à Jean-Claude Van Damme, moi, je ne catchais pas. Là, quand j'étais jeune, j'étais persuadé, pour vrai, qu'il était dans la même famille que Jean-Claude Van Damme, parce que ça ne se pouvait pas à quel point il ressemblait. Puis de le voir se battre, tu sais, j'avais pas vu. Tu sais, à part il y avait juste des luchadors, là, en quelque sorte, là, qui luttaient en faisant autant de flips, et de voir quelqu'un qui n'était pas un luchador qui faisait ça aussi bien, sinon même mieux, que plusieurs adultes mexicains. Moi, j'avoue que ça m'impressionnait pas mal. Donc, moi j'ai pas sourcillé aucunement quand j'ai vu que RVD était intronisé au Hall of Fame. Pour moi, c'était naturel qu'il soit. Ouais. En fait, là, ce qui est bizarre aussi avec cette QVC du Hall of Fame, c'est que ça inclut aussi la cuvée de l'année dernière que j'avais eu le temps d'oublier. Donc, quand j'ai vu hier les Bella Twins au Hall of Fame, je suis comme, bon, voyons donc, c'est un poisson d'avril en avance. J'avais complètement oublié que les Bella Twins étaient censées être intronisées l'année dernière et elles l'étaient cette année. Donc,
moi, c'est plus ça qui voit dans le ring bientôt.
Oui, ils voulaient revenir l'année passée, puis ils préparaient un comeback. Là, je pense qu'ils ont fini. Une s'est remariée, puis le Debra a eu le deuxième enfant. Fait que là, je pense qu'elle sort met en forme, puis tout. Mais moi, j'ai deux choses pour conclure, Harvey. Premièrement, Mathieu, t'as-tu un widget spinner dans les mains, genre un fidget?
Oui, oui, c'est ça.
OK, t'as le même déficit d'attention que ma fille. Et deuxième chose, moi, ce que je vais retenir de RVD, ce que je vais trouver triste, que la génération actuelle voit Shane McMahon faire son coast-to-coast, puis dire que c'est donc malade mental. Mais RVD did it en premier. C'était un de ses moves à ECW. C'était
le Terminator.
Ah oui, c'était bien mieux parce que lui, il le faisait pour de vrai. Il se rendait d'un bord à l'autre du ring. Il était beau juste venir coucher de tout son long avec l'aide d'une poubelle de deux pieds pour faire comme s'il traversait. Non, non. Allez voir le Van Terminator. Je pense que c'est contre Sabu la première fois qu'il l'a fait ou contre Jerry Lynn. Ça n'avait pas de maudit bon sens, l'explosion dans son saut. D'ailleurs, si vous avez du temps, le contre Jerry Lynn à ECW, vous ne vous trompez pas. C'est combat contre Sabu. Yep. C'était fou raide. Il y a eu des combats contre les Impact Players aussi qui valaient vraiment la peine, qui étaient Justin Credible et Lance Storm dans le temps. Parce que Lance Storm, il y en a qui l'oublient, mais il y a eu un beau rôle à la ECW jadis. Donc non, RVD, moi, ça m'a relancé dans une petite loupe que j'ai regardé une couple de trucs, son entrée avec Pantera, puis non. J'ai eu beaucoup de fun avec RVD dans ma jeune adolescence et je suis bien content de le revoir un peu. Même si
RVD
Astaire, il a du weird.
Ouais, mais c'est RVD qu'on a eu. On a eu l'opportunité de voir à l'IWS, nous autres, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 3, 2 ans. peu près.
Ouais, deux ennemis, AWS, je crois.
Il était à Impact depuis la dernière année et demie. Là, j'assume que son contrat est terminé et qu'il ne doit plus être sous contrat si on l'introduit.
Ouais, il me semble que c'était ça. Je pense qu'il y avait eu un dernier angle avec des danseuses ou je sais pas quoi. Puis il était un peu creepy dans un jacuzzi avec des filles à moitié tout nues. Puis là, on l'a jamais revu après. Là.
C'était, ouais. C'était shady, tout ça. Ben, c'est ça. Puis il était, de ce que je lis, il faisait partie d'une faction qui s'appelait Cancel Culture avec, entre autres, Joey Ryan. Donc, on peut imaginer que tout ça est tombé à l'eau assez rapidement. Donc, bravo à RVD. Un gars avec qui on a eu beaucoup de souvenirs, nous, dans les années 90 et début 2000. Pour continuer, au niveau de la WWE, bon, WrestleMania se précise. Raw, cette semaine, était probablement à lui seul responsable de la troisième vague. C'était mauvais à ce point-là. Je pense que c'est de la faute de Raw. Si,
c'est les gens qui ont
été à Québec. La troisième vague, Raw, puis Shane McMahon, j'y fais une catégorie à part, je pense.
Parlons du mauvais vraiment en premier. Là. Bon, tu viens juste de dire Shane McMahon, là, toute cette storyline-là avec Braun est, mon Dieu, tellement ennuyante, tellement stupide. C'est
sortir tellement son mal bulletin de quatrième année du primaire puis rire de ses notes, voyons donc. Genre,
Shane a déjà été une bonne promo, puis là, c'est horrible. Pis c'est gênant.
On est en 2021 et là, on joue vraiment la corde de « tu t'entraînes au gym, t'es nono ». C'est dommage. Puis ils le font pas juste une fois. Là. Je me souviens pas de qui d'autre ils le font à Raw. Mais c'est comme « t'as des muscles, fait que forcément t'es niaiseux
». C'est l'humour pipi caca premier degré de Vince. Là, en même temps, c'est pas surprenant. C'est pas la première fois qu'on a ça, mais c'est très pénible.
C'est niaiseux. Je pensais que les sons de train étaient le sous-sol pour Braun Strowman, mais là, le bulletin de quatrième année vient d'y en creuser une extension. Puis là, ça va être quoi? À WrestleMania, on va sortir son prof de maternelle?
Oublions pas que c'était fait engluer là, il y a de cela à deux, trois semaines. Là. Donc, quand il y a de la slime dans une storyline, c'est toujours mauvais signe. Je pense que l'année dernière, il avait fait une exception. Plutôt que de la slime, il avait sorti de la bouffe à chier là, avec Roman Reigns, souvenons-nous de ce moment marquant. Mais c'est à chaque fois que tu enduis un lutteur d'une matière visqueuse, ça prouve que l'histoire ne s'améliorera pas par la suite. C'est mieux juste de passer à autre chose parce que c'est gâché.
Bon, dans ce qui est aussi mauvais, The Hurt Business et Bobby Lashley étaient un groupe heel, sans l'ombre d'un doute. Quand Bobby a remporté le titre, ça a créé quelque chose. La nouvelle entrée de Bobby, sa présence, on dirait que tout d'un coup, on a senti tout le monde, on en a parlé nous autres, une espèce de comme, c'est peut-être le moment de Bobby Lashley, là, finalement, là, au lieu de toujours vouloir s'acharner sur les moments qu'on veut créer, c'est-à-dire là le couronnement de Drew, qui est en train de tomber dans le même pattern que Roman de là quelques années où on veut tellement le couronner qu'on finit par passer à côté de plein d'affaires. Fait que là, on se l'est demandé, qu'est-ce qui va arriver avec Bobby? Est-ce que ça devrait réellement être le moment pour couronner Drew à Mania ou plutôt profiter de ça puis embarquer vraiment dans la Almighty Era? Là, on a eu la réponse hier soir. On a décidé de briser le Hurt Business, qui est une faction qui fonctionnait complètement.
Dans les derniers six mois, le Hurt Business était une des rares lueurs positives à Raw. T'sais.
Puis là, à seconde où il a gagné son titre, on a commencé à vouloir les briser. Et là, on brise le Hurt Business. Bobby Lashley s'allie à Baron Corbin.
C'est n'importe
of
quoi.
Of all people.
Qui n'est même pas à Raw, là, qui est un lutteur de SmackDown.
J'imagine que là, il vient de virer à Raw. Tout ça dans le but que de clairement garder Bobby Hill et que le monde arrête de cheerer. Parce qu'on le sait, là, Baron Corbin, c'est un... je cherche le mot, là, c'est une sangsue à...
Un paratonnerre à huer.
Exactement. Donc, c'est-tu qu'on dort au gaz? Oui, c'était
bien. C'est comme s'il avait pris genre les restants dans le fridge, puis il avait tout mixé ça, puis ça a fait une recette vraiment cool. Je me dis, ah, nice, un genre, un bon dîner. Ah, t'as peu, je vais juste mettre une pochetée de sel dedans pour être sûr que ce soit vraiment pas bon. Mm-hmm. Tu sais, il y avait de quoi, là. Ça n'a jamais été le plan, le Bobby Lashley, champion du monde. Je pense qu'ils se sont enfargés là-dedans. Ils ont fait, hey, on va l'essayer, ça va être un bel angle, puis ils l'ont fait en 2-3 semaines. Puis ça marchait encore mieux qu'ils pensaient, mais ils ont fait, ouais, mais c'était jamais ça, notre plan. Fait qu'on va juste. Tu sais, un peu comme Frank disait, on va juste le saboter vraiment rapidement pour que le monde oublie que c'était peut-être mieux ça que Drew McIntyre. Parce que là, Drew, il s'en va gagner à WrestleMania, puis il se fera peut-être pas applaudir, là.
Mais non.
Quoi, c'est décevant.
C'est Drew McIntyre bat un Bobby Lashley qui n'est plus le monstre dominant qu'on croyait qu'il allait devenir. Ben, McIntyre a l'air moins winner. Tu sais, je veux dire, si le plan, c'était de faire gagner McIntyre, ce qui semble être le cas, on s'entend, et que son adversaire qui va vaincre, un peu comme ça avait été le cas avec Brock Lesnar, c'est quelqu'un qui a l'air, même si c'est pendant juste un mois et demi, quelqu'un qui a l'air absolument indestructible, ben lorsque Drew le bat, il a l'air vraiment du gars le plus dominant du roster, mais là... d'aller le faire battre, quelqu'un qui a rapidement perdu de son lustre, ben ça va faire en sorte qu'on n'aura pas la réaction qui est espérée, là, au contraire.
Puis là, à Raw lundi, en plus, Drew a une attitude qui n'est pas réellement babyface. Là, quand tu commences à te promener backstage et chercher du monde avec qui te battre, c'est pas...
Les insulter.
Exactement, les insulter. Fait que, tu sais, au final, encore une fois, la WWE nous prouve que on n'est pas capable de laisser vivre les choses organiquement. Puis quand je vois les affaires de même, je pense toujours au speech de Vince quand il a introduit la NWO là, à la WWE, là, où il dit comme I'm gonna destroy my own creation. C'est ça qu'il fait jour après jour en se sabotant eux-mêmes puis en refusant de laisser les choses qui se créent organiquement vivre.
Ouais.
Souvent, ça prend beaucoup de temps pour convaincre. T'sais, je veux dire, Brian, il a 7 ans, God, ça fait 7 ans. Ouch!
À
WrestleMania 30, ça a été long avant qu'on... T'sais, on a essayé de pendant longtemps d'envoyer Daniel Bryan au pire contre Bray ou juste contre... On voulait pas l'amener où on a fini par l'amener. Puis là, on n'a pas eu le choix, ils ont fini par embarquer, puis là, cette fois-là, il a eu l'air d'un génie, mais tu sais, c'est tellement difficile.
Ouais, puis je trouve que qu'est-ce qui se passe avec ce match-là, c'est à l'image de l'entièreté de la carte de WrestleMania, là, à quelques exceptions près, parce que sur papier, si là, on n'écoute pas du tout Raw et SmackDown, puis on regarde la carte de WrestleMania, puis je vois Drew McIntyre contre Bobby Lashley, tu sais, je suis quand même intrigué, j'ai envie de voir ce match-là, mais le build-up manque vraiment d'intérêt. Et c'est ça, quasiment tous les autres matchs qui sont sur la carte souffrent du même problème.
C'est ça qui est frustrant avec ce WrestleMania-là. C'est que, comme tu dis, tu regardes la carte, il n'y aura pas, il n'y a pas un mauvais match-up, il n'y aura pas un mauvais match. Le roster actuel de la WWE est probablement le plus talentueux de toute l'histoire de la lutte. Mais le problème, c'est quand tu dis, Chris, il me semble que toutes les histoires, toutes les storylines sont ennuyantes puis sont... C'est ça qui est déprimant. Là.
Mm-hmm. Sont non seulement ennuyantes, mais en plus, c'est que si tu portes attention à ce qu'ils font, tu sais à peu près où ils s'en vont dans tout. Parce que là comment ils vont le booker, Drew contre Lashley, c'est facile. Lashley est le gros méchant dominant, mais là, il vient de perdre ses acolytes. Là, il va encore essayer d'avoir des raccourcis. Baron va être impliqué, MVP va être impliqué. Là, Alexander puis Shelton vont peut-être venir balancer tout ça. Drew va overcome le désavantage numérique, puis il va gagner dans une espèce de truc où il va avoir l'air dominant parce qu'il va avoir un désavantage de nombre, mais où Lashley va avoir l'air du dindon de la farce parce qu'il il repose trop sur l'aide de ses acolytes alors qu'il est supposé être un monstre. Tu sais, c'est ça qu'il nous raconte comme histoire, que Drew va être the bigger man à la fin de tout ça. Et tu peux le faire avec The Miz. C'est le booking que tu peux faire avec The Miz. Pas avec Bobby Lashley. Ça fait... C'est comme si Brock Lesnar, soudainement, avait un clan avec lui, puis que là, tout le monde venait l'aider. Non! Quand Brock perdait, il perdait clean. Puis t'avais Paul Heyman avec sa face d'enterrement à côté qui rajoutait au moment. Mais là, t'as Bobby Lashley qui a juste l'air marron, là, qui va embaucher du monde. Hey, si vous êtes capable de m'incapaciter, Drew, je vous donne une chance au titre. Venez m'aider, blablabla. Bla, bla. Je suis comme, vierge, t'es le plus gros gars de la compagnie. Veux-tu bien juste le battre?
Puis
ouais. Pourquoi besoin après? D'aide, c'est ça?
Pourquoi ce genre de storyline-là avec un gars qui fait ce c'est poids ridicule. Et cette shape-là, c'est ridicule. Quand t'as un small, quand t'as un petit chicken shit heel, OK, fine, ouais. Tu fais ces storylines-là, mais là, ça fait pas de sens.
Mm-hmm.
C'est juste ça. On dirait que c'est le bouquin qu'il avait en tête tout ce temps-là, mais qu'il savait pas à qui le donner. Puis là, ils l'ont donné à Lashley, alors que c'est le moins bon rôle que tu ouais. peux lui donner. Mm-hmm. Donne ça à Demise, donne ça à Jesters, à la Libye. C'est pas grave, mais tu sais, ça marche pas. Là. C'est juste... Ton histoire ne fit pas avec les personnages que t'as mis dedans.
C'est ça.
Tout simple.
Ouais. Bon, on va aller du côté de deux combats qui ont été confirmés cette semaine, que là, on peut aller un peu plus dans le positif. Bon, premièrement, on a officiellement rajouté Daniel Bryan dans le main event avec Edge et Roman Reigns. Je pense que dès le début de l'annonce de ce combat, on a senti qu'il manquait peut-être un petit quelque chose, que Edge était peut-être un peu vieillissant peut-être pour traîner tout ça avec lui. Puis dès que Daniel Bryan a commencé à être greffé un peu à cette storyline, je pense que ça a beaucoup aidé. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que Daniel Bryan rentre vraiment comme le face contre les deux heels à Mania. Puis ça va être quelque chose à surveiller, je pense. Ça risque d'être un des très excellents combats du week-end.
Ben, c'est clair. Tu sais, comme je lisais un article sur Internet qui soulignait que justement, dans ce match-là, qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est que les trois lutteurs présentent la meilleure version d'eux-mêmes. Ça, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, Roman Reigns est au top de sa game depuis un an, ça. Y a aucun doute. C'est sûr que Edge, quand il était revenu, tu sais, tu peux pas faire revenir Edge, mettons, au Royal Rumble de l'année passée, puis tout de suite lui redonner un personnage de méchant, parce que c'est certain que les gens vont être contents de le revoir. Fait que, tu sais, c'est un peu la tradition, là. Lorsque tu as un retour, le lutteur va initialement être gentil, mais ouais. Tout le monde sait que Edge, c'est lorsqu'il est un méchant malicieux qu'il est le plus intéressant. Et là, donc, c'est bien d'avoir eu la confirmation que c'est cette version-là de Edge à laquelle on va avoir droit donc dans une semaine et demie. Là, c'est, ouais, déjà, dans une semaine et demie, WrestleMania.
Ouais, c'est bientôt.
Voilà, d'avoir Daniel Bryan dans le rôle du underdog babyface, ça c'est très positif. C'est clair, je pense que tu le mentionnais, François, il y a de cela quelques instants. On essaie de reproduire le scénario qui a eu lieu il y a de cela 7 ans. Là, donc, Daniel Bryan contre deux méchants. Puis à la limite, tu sais. T'sais, sur le coup, on ne peut pas vraiment se désoler de ça dans la mesure où ben, ce match-là, et surtout l'issue de ce match-là, a été, sans l'ombre d'un doute, un des moments les plus marquants là, de WrestleMania, même de toute l'histoire de WrestleMania. Donc, je comprends qu'on veut reproduire cette recette-là, mais en même temps, quand on veut reproduire une recette qu'on a déjà fait par le passé, on risque toujours d'être déçu. Je me souviens quand j'avais regardé l'analogie va être très boiteuse, là, mais je me souviens quand j'avais regardé le film Les Invasions barbares. Ça, je ne veux même pas penser à ça fait combien de temps, là, ça va encore nous faire vieillir. Mais tu avais le personnage de Marie-Josée Creuse, okay, qui, elle, était accro à l'héroïne. Puis là, elle expliquait que la première fois que tu vas faire de l'héroïne dans ta vie, ça va être la meilleure fois. Et après ça, tu vas essayer de chase the drag. Tu vas essayer de retrouver le buzz que tu avais eu la première fois, mais tu seras jamais capable. Fait que, tu sais, tu vas toujours réessayer, puis c'est comme décevant. Fait que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui risque de se passer. On arrive avec en tête, hey, ça va être malade ce match-là, parce que la première fois qu'il nous l'avait servi il y a 7 ans, c'était malade. Sauf que pour que ça fonctionne, ils ne peuvent pas nous servir exactement le même résultat. Je pense pas que cette fois-là, il faut que Daniel Bryan gagne. Hey. Même si j'aimerais ça, là, il faut pas, parce que sinon, ça serait du réchauffé.
C'est exactement ce que je m'en allais dire. Moi, je pense que Roman Reigns devrait remporter ce combat-là.
Ouais.
C'est ça qui est embêtant. En aimant, tu sais, là, je suis comme au point où j'imagine leur meeting de production et de booking. Et le premier combat à l'ordre du jour est toujours qu'est-ce que Roman fait à WrestleMania. Là, ça, mettons, c'est un meeting d'une heure, ils vont passer 45 minutes là-dessus, puis le 15 minutes à la fin de chaque meeting, on va décider le reste de la carte. Fait que ce combat-là, tout tout ce qu'ils font, c'est quasiment un sans faute. On a une belle gradation. Edge, tranquillement, pas vite, commence à être plus malicieux. Daniel Bryan commence à gagner du galon, fait taper Roman. Roman s'impatiente. Tu sais, ils ont tout super bien placé ce combat-là. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment il y a spin. Puis tout le reste est botché après parce qu'ils ont passé trop de temps là-dessus. Mais tu sais, je suis pas d'accord que Daniel Bryan peut pas gagner. La seule affaire qu'il faut pas qu'il fasse, c'est de ne pas assumer qu'on ne se souvient pas du combat. Il ne faut pas qu'essayer de le raconter comme si les gens ne l'avaient pas vu il y a 7 ans. C'est que tu peux l'utiliser comme un référent. Tu peux utiliser des faux finishes en clin d'œil à ça. Tu peux teaser les gens, par exemple, que Daniel Bryan a le Yes Lock sur Roman, puis il est sur le bord de gagner, comme il a fait avec Batista. Puis finalement, tu as une façon de le briser puis que le combat continue. Mais, tu sais, ils l'ont tellement bien ficelé qu'il n'y a pas de résultat décevant. Parce que si Edge remporte comme l'opportuniste qu'il peut être, ben c'est conséquent avec pourquoi il a viré heel, parce qu'il veut devenir champion, il veut saisir les opportunités. Si Roman gagne, ben tu solidifies que c'est le gars à la tête de la table. C'est ce que tu racontes depuis au moins 6 mois maintenant. C'est pas un bon bout que Roman est méchant. Donc, tout ça est conséquent. Puis si D-Bry gagne, ben là, tu as ton histoire d'underdog, puis il a déjà un peu battu Roman le mois passé. Donc, ils se sont ouverts les 3 portes et il n'y a pas un résultat qui me décevrait. Puis c'est rare que j'arrive à WrestleMania avec au moins un des combats principaux où je me dis, lui, je veux le voir, lui, je suis intrigué. Parce que les résultats m'intéresseraient tous. Tu sais, il y a tout le temps un, ah, je pense qu'ils vont faire gagner Brock, puis ça me gosse, puis je ne veux pas voir ça, puis je vais être surpris. Là, c'est comme
non. Il n'y a pas de mauvais résultat.
C'est ça. Racontez-moi votre histoire, puis je vais embarquer pour la ride après. Ouais. Les 3 scénarios me parlent. Ah, ils vont peut-être trouver une façon d'être décevants. Là. C'est jamais impossible qu'ils trouvent une façon d'être décevants. Mais pour l'instant, c'est pas mal un sans-faute, cet angle-là. Puis chapeau, parce que c'est rare, vraiment, vraiment rare, qu'un angle de WrestleMania n'est pas juste dessiné au crayon feu très gros. Ouais. Pour que le petit gars de 5 ans dans la dernière rangée comprenne ce qui se passe. Là.
Hey Stéphane, minuscule parenthèse. Ils viennent d'annoncer que Roy Williams se retire à UNC.
Ah ouais?
Ouais, c'est
il
comme.
Il se retire ou il est mort il y a genre 200 ans?
Il se retire avant de mourir, justement.
Donc, il y a
une mini-parenthèse de basketball collégial, Mathieu, as-tu une
qu'est-ce
opinion
que
là-dessus?
Je voulais dire, autre parenthèse, j'ai absolument rien compris de ce que vous venez de dire.
Le coach de UNC, ça fait comme 18 ans qu'il coach là, puis là, il vient de...
C'est pas plus, je pense qu'il se fait au moins 25, non?
18 à UNC, une carrière de 33 ans.
Fait que, OK, c'est ça, il est ailleurs. Bref, c'est un vieux poil, puis il se fait longtemps qu'il
L'autre chose qu'on attend de WrestleMania qui va être positif, je pense, écoute, c'est sûr qu'on est chauvin, c'est sûr que ils sont les principales têtes d'affiche de notre Fight Forever mentalité, puis KO, puis Zayn, ensemble à Mania, ça nous rend toujours heureux, peu importe ce qui arrive, c'est nos 2 boys sur la plus grosse scène en train de faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire se combattre l'un et l'autre. Mm-hmm. Ceux qui ont écouté dimanche le dernier épisode de notre émission de la lutte à RDS, on vous a présenté le dernier affrontement qu'ils ont eu à la Ring of Honor en 2012, un match d'échelle qui était, ma foi...
Vous aimez ça?
C'était merveilleux.
Tu l'as écouté, Mathieu?
Ben oui.
Puis...
En fait, t'es sûr que tu l'as écouté? Le tennis nous a bombé pas mal.
Oui, je sais. Ben, c'est ça. En fait, j'avais programmé mon enregistreur numérique. Là, par exemple, le problème, c'est que j'ai manqué le début du show. J'ai eu quand même ce match-là de Ring of Honor qui était absolument, absolument délicieux. J'en avais déjà vu des petits extraits. T'sais, j'avais vu le bump final, le package pile driver à travers deux échelles. Mais j'ai aimé pouvoir voir maintenant tout le build-up qui menait à ça. Là, vraiment, un morceau d'anthologie.
Ah, c'était fou, Red. Puis là, ben, ils vont le faire à Mania. Regarde, ils ouvrent le deuxième soir, si ma mémoire est bonne. Ils sont bookés pour le deuxième soir en ouverture. Okay. Malheureusement, on s'entend, là, ils vont avoir 15 minutes au mieux, puis ça sera probablement pas... ce sera pas un point d'attraction principale pour bien du monde. Fait que je sais pas à quel point ils vont leur donner de l'amour, puis ils vont lui mettre des bâtons dans les roues avec garder ça sain. Puis ce qui m'inquiète de tout ça, c'est l'implication probable de Logan Paul,
c'est ça.
Est pour les vieux comme moi, un YouTuber quelconque que les jeunes aiment. J'en ai aucune idée. C'est qui. Je le connais parce que je travaille dans pour Balco, puis je vois son nom circuler. J'ai fini par regarder de ses vidéos parce qu'il essaie de faire de la boxe, puis il y a une grand gueule, là, mais sinon, j'ai aucune idée c'est qui Logan Paul. C'est pas un pour moi. Puis, pas que je trouve ça plate là, que Kevin et Sammy soient pognés avec la vedette du moment dans leurs pattes, mais ça va être un obstacle plus qu'un. Tu sais, le Sammy qui recrute Logan Paul pour je sais pas quoi, il va peut-être bumper, le gars fait de la boxe. Ça se peut qu'il prenne un petit bump, mais essentiellement, il va peut-être aussi juste venir donner un coup de poing à Kevin.
Tu sais, Bad Bunny, c'était un peu plus organique. C'était quelque chose qui était un peu plus à long terme. Donc, tu sais, ça fonctionnait relativement, je pense, du côté de toute cette histoire-là là, avec Miz. Mais t'as raison, là, Logan Paul. Pourquoi rajouter Logan Paul à KO contre Sammy?
C'est la seule raison qui est là.
Ouais, surtout que ces deux lutteurs qui n'ont pas besoin, compte tenu de l'historique entre les deux, n'importe qui suit un petit peu la WWE sait que c'est naturel pour ces deux-là de se battre. Alors, oui, on peut critiquer le fait que ce match-là a commencé à être booké il y a de cela comme deux semaines après. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour construire une histoire, mais c'est la beauté de cette rivalité-là. Elle dure depuis toujours et tu peux n'importe quand la repartir, puis ça demeure crédible. Donc là, vraiment, on n'avait pas besoin d'ajouter cet élément-là. T'sais, on sent que c'est un peu un élément pour attirer encore plus l'attention des gens, mais ici, je trouve que c'est vraiment superflu. Puis comme tu disais si bien, Stéphane, je pense que c'est plus un obstacle à la qualité du match. Surtout que là, bon, on sait que ça fait longtemps que, je pense que c'était l'année dernière, en entrevue, Kevin Owens avait dit qu'il était déçu que WrestleMania, dans le gros stade des Buccaneers, ait été annulé, ou du moins il avait eu lieu au Performance Center, parce que lui, son plan, c'est de faire une grosse cascade, le sauter du gros bateau pirate dans son match de WrestleMania. Et là, tu sais, en ajoutant le fait que tu as Logan Paul dans le show, ça m'étonnerait que ça ait lieu, et en ajoutant le fait que tu as Shane McMahon qui a un match à WrestleMania, s'il y a quelqu'un qui a à avoir un spot du genre, c'est plate, ça ne sera pas Kevin Owens, ça risque d'être Shane McMahon.
Donc, Shane va sauter en bas de la cage, là, son dans un match de cage. Fait qu'il va sauter de la cage.
Dans un match de cage. Ouais, c'est mi-chemin de la cage. Le plus haut qu'il peut monter à 50, je ne sais pas quoi, il est 52, 53, Shane. Mm-hmm. C'est ça qui est poche, je viens de regarder, Logan Paul. Pourquoi il est là? C'est parce qu'il y a 22 millions d'abonnés sur YouTube.
Ben, c'est ça, c'est clair.
Ouais, c'est ça.
Fait que le gars, c'est une plus grosse vedette que n'importe qui sur le roster. Fait qu'il va juste arriver. ESPN va peut-être en parler parce que c'est un big deal. Puis ça va être ça. Kevin et Sammy vont être les sidekicks de Logan Paul est venu faire des niaiseries à WrestleMania. Écoute, au moins ils sont 104.
Oui, c'est ça. Au moins. Puis il y a un match un contre un.
Ils vont voler le show pareil parce que sont malades, mais. T'sais, ils se font donner de la moutarde puis pas grand-chose pour faire un sandwich. Là, fait que, faites des toasts à la moutarde.
Des fois, je te vois partir des métaphores de même. Là, j'aime ça regarder. Là, comme me croiser les pieds et faire comme « OK, où c'est qu'il s'en va avec ça? Comment il va réussir à s'en sortir de celle-là? »
C'est parce que j'avais l'analogie de quand CM Punk était parti dans son gros podcast qu'il avait fait avec Colt Cabana. Il disait toujours comme « Ah, moi, j'arrivais dans le bureau de Vince, j'arrivais avec du bon poulet, puis tout, puis pour faire la meilleure recette de salade de poulet, puis je ressortais avec de la chicken shit salad en résultat. » Puis j'aime comment j'amène ça en français? Puis là, j'ai dit moutarde, puis je suis comme « Bon, je vais me peinturer d'un coin avec de la moutarde. »
Mais à date, j'ai pas mal l'impression que tu as comparé chaque match de WrestleMania à un mets. Donc, j'aimerais ça que tu continues donc, sur cette lancée-là d'ici la fin de l'émission.
Je pense que ouais, c'est ça, Stéphane, la fin, c'est dur. Perdre du poids, hein, ça veut dire qu'on mange moins. Puis,
Tout le temps à la fin, je suis enragé.
Hey, je veux qu'on fasse un petit détour du côté du Japon. Parce que, bon, depuis que les ceintures de champion heavyweight et intercontinental sont portées par la même personne. On s'est toujours demandé bon, quand est-ce qu'ils vont les splitter. Là, on sait qu'on a décidé de les unifier et de sortir une seule belt. Et là, cette ceinture-là a été dévoilée cette semaine. Et bon, les réactions sont très polarisées, je pense, là-dessus. Ah oui, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses?
C'est spécial. C'est spécial. Je comprends le but de vouloir fusionner deux ceintures pour garder l'héritage un peu, mais je comprends pas les ailes. Ils ont comme grossi. Si vous l'avez pas vu, elle ressemble un peu à un papillon, là, un peu comme la ceinture des Divas, là, 15 ans à la WWE. Et on voulait garder, dans le fond, la ceinture blanche du championnat intercontinental, puis la plaque qui ressemble au championnat du monde IWGP. Mais on voulait moderniser le look un petit peu. Fait que là, je pensais ça, là, on s'éloigne des formes plus rondes avec les petites ailes puis le papillon.
Avec des pierres précieuses de couleur hein, aussi
Ouais, c'est.
dessus.
Regarde, c'est le champion qui va faire la ceinture. Si Ibushi a un règne dominant, on va oublier un peu le look étrange. Mais là, j'ai le même goût en bouche que quand la Spinner Belt est arrivée la première fois, là. Puis elle spinait, là. Elle n'était pas statique, là. John Cena la faisait tourner, là. C'était
Écoute,
épouvantable.
corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que comme à peu près personne ne voulait que ces deux belts-là soient unifiées. On dirait qu'à la base, c'est un petit peu. Ça passe mal d'avoir accepté une nouvelle ceinture qui
Ouais,
remplace deux belts qui étaient déjà parfaites, tant qu'à moi, individuellement, puis qui auraient dû rester deux titres séparés. Puis là, c'est comme bon.
je pense qu'il aurait juste dû retirer le championnat intercontinental tant qu'à ça, puis garder la lignée du. Mais tu peux reculer de ça, là, j'y vois encore de mémoire, mais à l'époque, il avait fusionné les deux championnats de la WWE et de la WCW pour faire le Undisputed Champion. Et éventuellement, ils l'ont redivisé en deux champions, puis éventuellement, après, tu sais, c'est devenu World, puis WWE, puis là, c'est devenu Raw, puis SmackDown. Mais, fait, tu sais, tu peux désunifier une ceinture
Oh,
éventuellement, puis c'est peut-être là que ce design-là va prendre le bord des vidanges, puis là, ils vont ramener les deux ceintures classiques, puis faire comme. Mais on dit classique, le championnat intercontinental, le New Japan, est quand même relativement récent, donc c'est pas tant dérangeant de le voir partir. Je
OK.
pense que c'est juste la nouvelle ceinture qui est weird, mais. La première rivalité pour cette ceinture-là, c'est Will Ospreay contre Ibushi, avec un Will Ospreay qui n'a jamais été aussi bon. Il a gagné la New Japan Cup en tant que méchant. Il a même fait un cutter à sa blonde pour montrer qu'il était prêt à tout. Et ça va être un combat de débile. Honnêtement, là,
C'est
si
prévu
vous
pour
voulez.
quand? Oh,
C'est
t'as pas
une
excuse.
semaine ou deux après WrestleMania, me semble. C'est vraiment bientôt. Fait que si vous avez juste un truc de New Japan à voir au printemps, c'est Ospreay Ibushi. Il n'y a aucune chance qu'il ne donne pas un 5 étoiles complètement fou qui va être dans le top 5 des combats de l'année. C'est juste de savoir, ils vont-tu faire sauter la maison ou ils vont juste faire la brûler un petit peu jusqu'à la prochaine fois. Parce que ça va être fou à ce point-là.
Ce serait Sakura Genesis le 4 avril. Donc,
C'est
techniquement,
avant
avant
WrestleMania.
Mania, ça serait
Shit,
ce
c'est en fin de
week-end.
semaine, ça?
Oui.
La
Bon,
grosse
je t'enverrai
semaine de
pas.
lutte, hein, pareil. J'étais sûr qu'ils se gardent ça
Oui,
pour
oui, oui.
Mars.
Ben là, ça fait jaser aussi cette semaine de lutte-là, parce que là, je sais que sur les réseaux sociaux, quand les indépendants avaient annoncé qu'ils allaient faire des shows pendant la semaine de Mania, il y avait eu un peu une réponse de comme, ben, les gars, c'est pas une bonne idée, ça, on est en pleine pandémie. Là, ils sont allés pareil, puis là, il y a eu plusieurs calls cette semaine, plusieurs plaintes, en fait, de certains membres de ces fédérations qui disent là, les gens sont pas en arrière de nous puis nous back pas, puis c'est comme ouais, mais vous êtes allé vous pitcher dans une situation qui est un peu lose-lose, puis là en plus, All Elite va faire un house show pendant cette semaine-là, un des soirs où la WWE a rien, donc je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents là-dessus. Hein, c'est un drôle de mix tout ça.
Ah,
Il
c'est
semble
un
que
drôle de mix.
c'est pas une année pour. C'est devenu ça depuis un petit bout, la semaine de WrestleMania. En même temps, une célébration de la lutte où toutes les fédérations indépendantes viennent se showcaser. Je pense que cette année, ça aurait peut-être été une autre année à sauter là-dessus, malheureusement.
Surtout All Elite. Honnêtement, All Elite, oui, ils sont en Floride, puis c'est facile de capitaliser là-dessus, mais tu sais, tu t'enregistres déjà devant pas vraiment. Tu sais, ils ont, je pense, c'est 200-300 spectateurs là, pour Dynamite. C'est vraiment pas beaucoup, puis ils sont loin. Tu sais, à la limite, tu aurais pu juste dire, OK, on va en accueillir un peu plus pour les voyageurs qui vont pas à NXT. Mais tu sais, tu peux pas d'un côté faire attention pendant un an, puis après ça, juste te revirer de bord, puis dire, ah, ben là, il va y avoir plein de fans de lutte en Floride. Je vais aller essayer d'en ramasser une coupe, puis me faire une pièce avec ça. C'est poche. Puis, ouais, c'est, j'ai même pas regardé c'est quoi les cartes. J'ai pas envie d'encourager ça. J'ai comme, c'est une mauvaise idée d'aller en Floride puis d'inciter le monde à juste se motonner ensemble. On l'a bien vu, là, ici, on a décloisonné 2 semaines la région de Québec, puis c'est le bordel. Fait qu'imaginez la Floride, même si la vaccination va bien aux États-Unis, c'est trop tôt. C'est une mauvaise idée, ça va mal finir. Puis tout ça, tu sais. Ça va être étrange parce qu'on fait un podcast de lutte chaque semaine, mais tout ça pour de la lutte.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Attendez, c'est pas.
Oh, oui, non, je
ça reste secondaire, la lutte. Là,
bon, All Elite, c'était dans la main hier soir. On a quand même un épisode assez chargé. Entre autres, je pense la chose la plus importante, le retour du Inner Circle dans un segment que moi j'ai trouvé très cool où on brawl un peu partout, puis
on utilise Jericho les bols de toilette.
Les bols de toilette, exactement, pour MJF. Back where it belongs. fait que c'est ça, tu sais, ces petites pauses-là d'une semaine ou deux qui sont efficaces comme beat dans une histoire, puis là, on était content de revoir l'Inner Circle, je pense.
Mm-hmm. Ben oui, tout à fait. Puis de voir. Tu sais, quand initialement Sammy Guevara avait été éjecté des Inner Circle à cause des manigances de MJF, j'étais persuadé que ça. On préparait un face turn officiel pour Sammy Guevara. Je pense que ce serait bien tiré d'affaire dans ce rôle-là. Pour l'instant, bon, finalement, il aurait été réintégré dans le groupe. Reste à voir si. Désormais, on va faire de Inner Circle en général une fonction qui sera considérée comme gentille. Visiblement, ils sont en opposition avec The Pinnacle qui, eux, sont clairement des méchants. Donc, peut-être que c'est une occasion pour un changement de cap général de Inner Circle. On verra bien, mais je pense qu'on peut commencer à préparer la table pour ça.
Oui, puis, tu sais, non seulement je suis content de les avoir revus, je suis content d'avoir été surpris parce que quand le segment a commencé, j'ai fait « Ah non, c'est trop tôt ». Puis finalement, 2 minutes après le début du segment, je vais dire, OK, non, on retrouve le Inner Circle badass un peu, qui sont là pour pas niaiser. C'est plus juste des jokes puis des comédies.
C'est ça, musicales. La comédie un peu, exactement.
Fait que tu sais, ils peuvent devenir les faces, mais quand même badass.
Ben oui.
Et avoir les très, très méchants de l'autre côté. Puis Guevara se réintègre au groupe un peu comme ça. Je pense pas que ça va freiner son push, même qu'au contraire, ça va comme être lui l'énergie du Inner Circle parce que. Il va vouloir avoir MJF. Donc, ce ne sera pas forcément Jericho contre MJF. Ça va peut-être être plus Sammy contre MJF. Fait que non, honnêtement, puis ce segment-là a relancé tout ça parce que là, tu sais, ça faisait 2-3 semaines que Pinnacle, on les installait doucement. On n'avait rien fait avec Inner Circle. On n'a pas brûlé non plus ce qu'on peut faire dans le ring. On a juste donné un gros brawl. Puis là, on veut voir ces combats-là. On veut voir les équipes s'affronter. Pride and Powerful contre les gars de. Les autres, j'ai un FTR. On veut voir ces affrontements-là, puis encore une fois, c'est la démonstration que Dynamite book bien d'avance ses trucs. Ils nous l'ont bien teasé, puis même quand ils font des 2 shows en un enregistrement, puis ils l'étalent sur 2 semaines, ils sont capables d'avoir une belle continuité, puis de ne pas se brûler d'une semaine à l'autre. Ils se gardent tout le temps des belles surprises. Fait que même un Dynamite qui est sur papier juste un petit mercredi, mais moi, je m'assois en avant, puis j'étais pas mal en direct hier. Là, j'ai peut-être manqué la première demi-heure, puis j'avance les annonces. Puis ça donne que je saute pas de moment. J'écoute Dynamite au complet, parce qu'il y a toujours des petits moments comme ça. Puis même ce qui devait être un truc de Pinnacle, MJF donne un cadeau à Pinnacle. C'était un segment de Poutine que je me fous un peu. Hein. Les mets, je garde des... je garde le lien. Puis finalement, on rajoute 2-3 ingrédients. Puis Jericho, avec sa face de... je suis fâché, je referme la porte comme dans un cartoon. Je l'ai pas vu. Ils vont s'en aller.
On s'en va.
Non, c'était vraiment, vraiment excellent. Puis c'était en plein milieu du show, juste comme, je m'attendais pas à ça, j'étais un peu fatigué. Puis, OK, ils m'ont eu. Hook, line and sinker, j'ai tout acheté de ça.
Bon, Cody Rhodes, QT Marshall se sont affrontés. Il y a une espèce de grosse facture dans le Nightmare Family. C'est pas évident de suivre cette storyline-là si t'écoutes pas Dark et puis Being the Elite. Fait que là, c'est le fun, on a vu ça imploser, puis bon, OK, une autre faction de gars qu'on connaît pas, puis qui, tant mieux si ça les aide à s'établir, puis que si Cody est là pour essayer de mettre tout ce beau monde-là over, c'est bien tant mieux, on est pour ça. C'est juste tough des fois quand ces storylines-là viennent finir, comme aboutir à Dynamite après avoir été bâti ailleurs. Puis moi, je veux dire, j'écoute pas ni Dark ni, euh, Bien
guidé
toutes les semaines. Là, fait que...
mm-hmm. C'est ça, c'est ce qui arrive. QT Marshall, là, leur histoire, c'est que QT était un des entraîneurs de la Nightmare Family, puis c'était ses poulains, dans le fond, qu'ils ont comme recruté pour être tout seul. C'est tous des gars qu'on ne connaît pas, puis je n'essaierai même pas de les nommer, j'ai oublié leur nom. Les annonceurs les ont dit beaucoup à la télé pour qu'ils essayent de rentrer un petit peu, mais là-dedans, t'as un ancien boxeur olympique qui a pris sa retraite à cause d'une blessure à l'œil. T'as l'espèce de gros monstre poilu, là, que ça s'enseigne pas. C'est un gros monstre.
Pis... Moi, j'y connais tout. Là. Il y a Aaron Solo, il y a Anthony Ogogo, il y a Nick Komoroto.
Ben, Komoroto, c'est le gros monstre poilu. Ogogo, c'est l'ancien boxeur. Puis Aaron Solo, c'est celui qui a donné le coup de chaise à Dustin avec les cheveux bleus. Tu sais, c'est eux autres. Mm-hmm. Puis même QT Marshall, comme tu me l'avais mis dans un line-up il y a 3 semaines, je te l'aurais pas nommé.
Non, c'est ça.
Je sais pas si. Donc, c'est correct. Comme Frank,
oui, ça sert à ça.
Faut monter des nouveaux talents. C'est une belle swerve. On savait que QT s'en allait du côté des méchants, parce que c'était pas subtil. Le fait qu'il recrute du monde dans Nightmare Family, c'est intéressant. Ça va donner des match-ups aussi avec le fils de Billy Gunn puis tout ça.
Ouais.
Ils vont peut-être avoir un peu de temps d'antenne. Faut que tu le remplisses, ton show, t'as 2 heures de télé chaque semaine, plus ton Dynamite, plus Elevation, plus, tu sais, c'est correct, faut qu'il s'élargisse un petit peu, mais de là à dire que je suis intéressé, peut-être pas, là, mais...
J'ai l'impression que ça fait une faction de jobber, en fait, là.
Ouais. Le job squad de 2.
Ben, t'as déjà César, Bonami, machin, pis ses acolytes, là, pour faire ça.
C'est ça, moi.
On a ouvert le show avec le retour dans le ring après 7 ans en single pour Christian Cage. Contre Frankie Kazarian, bon, le match en tant que tel, c'est ce que c'est Christian, il a eu l'air correct, tu sais, il n'y a pas... Sauf que là, en kayfabe, c'est dur de voir ce gars-là venir challenger pour la belt, là.
Mais non, il a eu de la misère à tasser Kazarian. Puis, tu sais, tu dis qu'il a look good.
Moi, il look OK, mettons.
C'est ça, je regardais le combat, puis j'ai fait...
Ah, il y a de l'hésitation pas mal, je trouvais, dans son travail.
Mais ça filait comme de la peinture à numéro. Genre, tu sais, il savait ce qu'il avait à faire pour nous donner un bon combat, puis que le monde dise this is awesome. Mais c'était pas super investi. Tu sais, c'est comme, ben, on va tout faire. On a notre liste, les gros moves, check, check, check. Mais tu sais, c'était un pas un peu plus lent, c'était décalé par bout. Le synchronisme n'était pas tout là. Puis Kazarian aussi n'est pas super jeune. Fait que tu sais, quand les deux ont la même vitesse un peu au ralenti, ça donne un bon combat, mais. Moi, j'aurais pas dit de ces awesome nulle part. Là, comme si c'était juste. J'ai trouvé ça long un peu. Puis Christian, il est en forme. Puis tout. Il pompait l'huile un peu. Là. T'as beau dire qu'il est en forme. Il est dans la mi-quarantaine. Puis c'est tough lutter. Fait que, tu sais, ça sera jamais ce que c'était, il y a 10 ans. Puis tu sais, quand ils parlaient, leur plus grande rencontre d'échelle à Impact. Puis tout. Puis là, à un moment donné, ils disent 13 years ago. Je suis comme. Ben, c'est ça.
C'est ça.
On est en 2021, on n'est pas 13 years ago. Ouais. C'est ça. Christian ne me dérange pas. S'il est dans le show, dans ce genre de rôle-là, c'est correct. Mais là, si tu l'envoies dans les pattes d'Omega, il n'y a aucune maudite chance. Fait que c'est comme à quoi ça sert tant qu'à ça.
Ouais, ça prend des adversaires à Omega pour en faire un long.
Exact. Tu sais. Tu as besoin. Il va le battre un mois, puis on passera à autre chose. Là, la soirée s'est finie avec l'anarchie à l'arcade. Ça ressemble à nos soirées à Arcade MTL
avant la pandémie.
Bon, ça a servi à deux choses, ce combat-là. Bon, deux retours. On a Chris Statlander qui est revenu, qui a attaqué Penelope Ford. Le retour de Trent aussi pour
rebâtir. Minivan avec maman.
Exactement. Ça et rebâtir les best friends pour vrai. La deuxième utilité, c'est je pense qu'on voulait finir le show avec la nouvelle toune d'Orange Cassidy, parce que sinon, ça fait pas beaucoup de sens que ce soit eux qui gagnent. Puis là, à un moment donné, si on veut réellement pusher Miro, là, à un moment donné, il va falloir changer de vitesse puis accélérer un peu, parce que là, on est proche de la zone où ça peut devenir dangereux là, pour son futur, entre guillemets. À court terme, mettons.
T'sais, oui, puis non. Tu n'avais pas le choix de faire gagner des best friends parce que sinon, ils devenaient les butlers de Miro jusqu'à la fin des temps. T'sais, ils s'étaient peinturés un peu dans le coin.
Ben, c'est ça. Arrête de mettre ces stupides.
Mais là, ce que moi, je retiens du combat, c'est que Miro, ils veulent vraiment nous le construire comme un monstre. Là. Ils, il a dominé tout ce qu'il a fait dans le combat. C'est juste qu'à la fin, il était à 3 contre 1 puis il a fini par l'échapper. Ouais. Là, ce qui va arriver, c'est qu'il va se revirer de bord contre Kip Sabian puis dire que c'est le maillon faible puis il va le pitcher en dessous de l'autobus. C'est comme ça que tu vas construire un Miro méchant parce que ça ne marche pas avec Kip Sabian.
Non, son association avec lui dès le début, ça ne marchait pas. Là,
c'est ça, ça ne servait qu'à ça. Là, c'est Kip qui a pris le pin. Fait qu'il va juste pouvoir dire okay. T'es un loser, va-t'en. Puis même chose pour Penelope Ford qui s'est fait écraser par Chris Statlander. C'est de même qu'ils vont faire ça avec Miro, à moins là, une surprise majeure, mais c'est l'histoire qu'ils nous ont racontée. Mm-hmm. Puis l'arcade était pas mal là. Si tu voyais d'avance quelle arcade était fausse, puis qu'ils pouvaient utiliser pour la détruire, puis que les autres, il fallait vraiment pas qu'ils y touchent parce que c'était des systèmes de collection, puis probablement prêtés par une arcade. Ouais. Qui ont fait mm-hmm. OK, on aimerait ça les revoir en bon état, mais t'as une machine de Mortal Kombat écrit Token dessus. Elle, tu à briser, il n'y a rien dedans. Puis sinon, ben, une table d'air hockey qui coûte 500$, puis on fait
ça. C'est un beau spot.
Mais tu sais, la semaine passée, quand on avait vu les cakes, justement, la nouvelle tune de Orange Cassidy, ça allait être Where Is My Mind des Pixies. Tu sais, j'étais content parce que j'adore la tune, mais on dirait que je voyais mal comment ça allait bien s'intégrer à un show de lutte. Et là, justement, d'avoir l'épisode qui finit avec Where Is My Mind, d'avoir comme les best friends qui se font des câlins avec les gros effets de caméra, je trouvais ça absolument merveilleux. Donc, ne serait-ce que pour ce segment-là, ça aura valu la peine d'acheter les droits sur la pièce.
Ouais, je suis bien content d'en voir Trent aussi parce que
ben oui.
Chucky, je suis moins un fan. Fait ouais, ça prend Trent.
Je suis d'accord avec toi que tout seul, il me fait pas réagir ben. Tandis que en équipe, avec Trent et encore plus là, avec en trio, entre guillemets, avec Orange, ça marche.
Mais là, t'as sauté le meilleur de Dynamite.
Pour terminer, bon, le soap opera de The Elite continue. Mm-hmm. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que, bon, après un affrontement entre Don Callis puis lequel des deux, c'était-tu Matt?
C'est Matt.
C'était Matt?
Nick, il a quitté la pièce. Puis c'est Matt qui est comme le plus vieux puis le leader des box un peu.
Excellente promo là-dessus. Puis là, au final, Omega finit par se pointer avec les Young Bucks. Mm-hmm. Ça, c'est quand même un gros Omega, break pour les box.
Moi, Moxley arrive puis se fait backer par. T'as dit Omega.
Ah oui, excusez. Oui, je voulais dire Moxley.
Non seulement ça, mais confirmé pour la semaine prochaine à Dynamite. En contre-programmation du premier soir d'NXT.
Exact.
T'as Omega puis les Good Brothers contre Moxley puis les Bucks. C'est probablement le main event de Dynamite. Donc, pendant le main event de Stand and Deliver ou Stand Tall, le premier soir d'NXT, ils sont pas caves. Ils sont pas caves. Ils ont un gros combat. Puis ça, c'est après. Probablement mon combat préféré à Dynamite, excluant le combat de filles il y a 2 semaines. Le combat trio avec les Good Brothers contre les Lucha Bros et Larry Low Kid.
Ouais.
Je savais que ça allait être bon, mais ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Tu mets ce monde-là dans le ring, Omega avec les Lucha et Larry Low, il se passe tout le temps des affaires folles. Puis tu sais, ça n'a pas été. Ils n'ont pas eu besoin d'aller en 4e, 5e vitesse. Ils ont juste donné de l'action mur à mur, 15 minutes. Puis Larry Low Kid, on va le reprendre à chaque fois qu'il va revenir. Puis on va toujours être très, très contents. Puis Pentagon est toujours absolument fou. Et Phoenix va être champion All Elite un jour. Ouais. Il n'a pas le choix. Il est juste trop bon. Parce que le match,
c'est une raison. Je pense ça de Pentagon aussi.
Oui. Ou Pentagon va être champion TNT, peu importe. Mais ces gars-là sont trop bons. À chaque fois qu'ils les installent dans le ring, il se passe de quoi. Puis là, tu sais, même les Good Brothers ont bien paru, alors qu'ils sont sur une pilote automatique depuis un bout. Mm-hmm. C'est de la bombe, ce match-là. Puis là, la semaine prochaine, ça va être encore de la bombe. Je m'excuse, mais Kenny Omega, s'il n'est pas le lutteur de l'année, à la fin de l'année, je comprends plus rien.
Ben, Roman lui fait quand même une chaude lutte là, pour le
il fait une chaude lutte, c'est vrai. Mais tu sais, Kenny, là, c'est ça, c'est dans plusieurs promotions. Puis là, ils vont sûrement faire un bang avec la New Japan avant la fin de l'année. Écoute, puis Don Callis, as-tu juste envie d'y rober à la face sur la fat à chaque fois qu'il parle? C'est excellent, là.
Un bon vieux curb stomp, là, puis non, je comprends ce que tu veux dire. Ça fonctionne, il est taillissable, il fait bien sa job, puis...
Puis on veut écouter Dynamite chaque semaine juste pour ça. J'écoute même les YouTube d'Impact juste pour voir qu'est-ce qu'ils font, lui et Kenny, là. C'est du beau travail.
Absolument. Fait que ça va être à suivre. La semaine prochaine, on va faire l'émission le vendredi pour pouvoir revenir sur Stand and Deliver. Écoutez, on avait déjà fait pas mal le tour de la carte la semaine passée. Bon, on peut...
Ouais.
On peut revenir sur le fait que Walter Ciampa, je pense que ça... Il y a des bonnes chances que ce soit le match de toute la semaine prochaine, puis on a extrêmement hâte à ça.
J'entends en feu, là, grosse promo, puis c'est le moment de NXT, parce que j'ai encore rien compris au Royal Rumble, Gauntlet, machin, là, c'est donc bien compliqué.
Écoute, on va attendre de voir le match. Il partait 12, puis là, les 6 derniers déterminaient, si tu tombais 6, tu rentrais premier dans le combat, puis là, juste... Le dernier rentrait 6. Ouais, c'est ça, 6. Mais là, finalement, ils ont été juste 11 parce que Roderick Strong. C'était assez.
LA Knight a gagné. C'est lui le dernier qui va rentrer dans le gauntlet. C'est tout ce que j'en retiens.
Exactement.
Puis si j'ai bien compris, là, parce que là, j'ai pas eu l'occasion de voir, mais tu sais, j'ai lu un petit peu de recap. Pete Dunne sera pas dans le gauntlet, ce que je trouve absolument inacceptable.
Non, mais il devrait affronter Kushida en single, de ce que j'ai lu.
Je pense qu'ils ont
ils l'ont mis à l'horaire le premier soir.
OK, bon.
Ça me va tant qu'à ce que Pete Dunne soit juste un gars random dans le combat, puis que clairement on n'avait pas l'intention d'aller dans sa direction pour le faire gagner. Je préfère qu'on le sorte de là, qu'on lui donne un beau one-on-one avec Kushida, qui est un gars extrêmement talentueux, que ça va faire un excellent match.
Un beau takeover moment. Là.
Donc, on a fait le tour de la carte déjà la semaine dernière. Et écoutez-les, ça va être la bombe pas mal les deux soirs. Puis nous, on va être le vendredi pour revenir là-dessus et previewer WrestleMania aussi en même temps.
Qui va être le lendemain. Parce
Il va être le lendemain parce que la vie fait plus de sens.
Je suis déjà essoufflé.
Annuler. Il faut annuler tous les autres plans de la vie normale la semaine prochaine et se consacrer à temps plein à la lutte professionnelle.
J'ai fait une réserve de chocolat de Pâques en spécial lundi, là, puis manger du chocolat de la semaine en écoutant de la lutte. Ça va être le plan.
Hey boy, on va être beau à voir la semaine d'après.
Si ma fille savait la quantité de chocolat qu'on mange quand elle est couchée pendant la semaine de Pâques, parce que moi, en venant du lac Saint-Jean, moi, le chocolat des Pères Trappistes, c'est...
Avec les bleuets, ça?
Non, juste normal. C'est juste le meilleur chocolat qui existe sur la Terre.
Ouais,
je t'en ramenais tout le temps, là, ça, des gros cocos.
Maintenant, ils exportent, j'utilise un gros guillemet, là, parce que c'est difficile de dire exporter quand tu parles de Lac-Saint-Jean vers Montréal, mais maintenant, il y en a dans les épiceries. C'est le meilleur chocolat du monde, puis je me nourris pratiquement qu'à ça. Pendant les deux semaines qui précèdent Pâques. Puis là, après ça, on en donne un à notre enfant, puis c'est comme quand... Mange pas trop de chocolat, là!
La taxe parentale, là, c'est comme tout ce que tu vois dans tes petits œufs, là. Moi, j'en ai mangé le triple parce que quand j'en mettais un dans l'œuf, j'en mangeais un. J'en mets un dans l'œuf, j'en mange un. Puis j'étale ça sur une couple de jours.
Mathieu, tu nous as-tu écouté justement un film avec une thématique de Pâques cette semaine?
Non, mais une thématique de nourriture, par exemple. Il y a un lien à faire. Ce sont assez rares les comédies dans la liste des films côté 1 de Mediafilm. Cette semaine, je suis allé du côté de la comédie. Une comédie réalisée par Louis Buñuel, que je ne connaissais que parce que quand j'étais au cégep, j'avais vu le classique Le chien andalou, là, un film de 15 minutes surréaliste dans lequel il y a comme un œil qui se fait slicer. Donc, moi, c'était comme un semi-traumatisme de mes études. Et là, le film que j'ai écouté, c'est Le charme discret de la bourgeoisie, donc comédie entre guillemets, là, c'est pas hilarant, mais c'est quand même plus léger dans le traitement que la majorité des autres films qui se retrouvent sur cette liste-là. Une gang de bourgeois, de la haute bourgeoisie qui essayent toujours de se rassembler pour souper, puis il y a toujours des trucs qui viennent les empêcher de souper. Déroutant par moment, tu sais, des fois tu réalises que c'est ce qui vient de se passer. C'est un espèce de trope, là. Ce n'était qu'un rêve, là. Y a ça beaucoup dans le film, mais tu sais, c'est utilisé dans ce film-là de façon assez intelligente, là, parce qu'il y a une volonté de brouiller la frontière entre qu'est-ce qui est un rêve et qu'est-ce qui est vrai. C'est pas les films qui m'ont le plus marqué de ceux que je vais avoir écouté dans la dernière année, mais quand même, je suis content de l'avoir vu. Et ça fait un beau contrepoids. Oui, vas-y, vas-y.
Non, vas-y, finis ton
contrepoids. Et ça fait un beau contrepoids à l'autre film que j'ai regardé la semaine passée et qui, lui, est absolument pénible. Donc, je me suis tapé les 4 heures de la Zack Snyder Cut de Justice League.
Faites ça!
Eh boy, j'avais pas vu le Justice League original. Je me suis dit, tu sais, attends, j'ai T'sais, j'en ai vu quelques-uns des films de 4 heures là, dernièrement. Lawrence d'Arabie, puis Once Upon a Time in America. Tu sais, quand tu as 4 heures, tu en profites, tu peux comme construire quelque chose d'élaboré avec plein de subtilités, puis du développement de personnages. Et là, je trouvais ça insultant à quel point, en 4 heures, il y a à ce point rien d'intéressant qui se passait dans ce film-là.
Moi, je vais peut-être aller loin. Là. Je pense pas qu'il y ait un film de super-héros qui mérite un director Scott, là. Base, là, non, là, c'est pas assez important. Puis deux, 4 heures de runtime, là, c'est rendu là.
Si vous voulez faire 4 heures de film plate, là, faites une série sur Netflix ou Disney Plus ou whatever. Faites un 8 heures pour de vrai, puis décloisonnez-le. Mais un film de 4 heures, là, c'est supposé être un événement. Là. Déjà que les derniers Avengers, là, Endgame à 2h30, 3 heures de runtime, c'est. C'est bon, c'est là, mais c'était un peu long, tu sais. À un moment donné.
Je me rappelle plus si on a eu la discussion dans le cadre du podcast, mais même The Irishman.
Ah, c'était long, c'était plate.
À un moment donné, là, c'était comme apprends à couper du stock dans la salle de montage, chef, là, parce que c'est pas parce que tu l'as filmé que ça mérite d'être allé. En tout cas.
Ah non, officiellement, The Irishman, je me souviens, on l'a écouté, moi et Marie, puis après 20 minutes, moi, je commençais à trouver ça long, puis là, j'en regardais dans sa direction de temps en temps, puis c'est. Je le veux pour aller chercher un snack. Puis, ben, c'est pas super. Correct. Je vais reprendre. Il va rouler. Puis, hey, c'était long. Puis, c'était pénible.
Mathieu, j'ai une question.
Vas-y.
À quel point t'as hâte de finir cette styliste-là?
T'es-tu ben, tanné? Non,
est-ce que t'as hâte de revenir à du Michael Bay? Puis.
Ben, en fait, c'est que je m'empêche pas de regarder d'autres films. T'sais, c'est un film par semaine va être cette liste-là. Non, j'ai pas nécessairement hâte de l'avoir fini. Ben, en même temps, j'en ai encore pour 2 ans. Je pense que c'est à peu près comme 150 films dans cette liste-là. Là. Mais je trouve que justement, là, en temps de pandémie et de confinement, où c'est comme toutes nos habitudes normales ont comme un peu foutu le camp, ben, je trouve ça structurant. Là. Ça me donne une petite routine. Donc non, j'apprécie.
T'es comme un enfant à qui il faut donner nos tiennes.
C'est ça, exact.
Un gars vaillant qu'on dit. Spinons ça positif.
Bon, merci. All right, bon, mais merci beaucoup, messieurs. On se revoit la semaine prochaine, vendredi, le 9 avril, pour revenir sur Takeover Stand and Deliver, parler de WrestleMania, puis que Mathieu vous parle de d'autres films plates.
Ça marche. Mission acceptée. Quoi que peut-être que j'aurai pas le temps la semaine prochaine.
Ouais, c'est
à
beaucoup
cause
de lutte.
Jamais de la quantité de lutte. Là, on
il y a beaucoup de lutte à écouter la semaine prochaine. Fait que sortez votre chocolat, comme dit Stéphane, puis écoutez de la lutte. Puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
Salut. Adios.